Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek avec, comme chaque semaine, Marjorie. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Génération Geek, vous le savez, cette émission de vulgarisation de la culture geek, vous nous retrouvez chaque semaine sur RCF et c'est un grand plaisir en tout cas pour nous de vous retrouver. Sachez rapidement que vous nous retrouvez également sur internet, il y a une chaîne YouTube Génération Geek, également un compte Facebook, une adresse mail, tout ça, enfin voilà, que des petites choses très, très numériques. On va parler de séries aujourd'hui, notamment de séries télé et des séries américaines. On va essayer de vous raconter un petit peu comment marchent toutes ces séries, quelle est leur origine, quel est leur fonctionnement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des coupures l'hiver, l'été, comment ça se passe, quel est le rôle de chacun des corps de métier dans cet grand univers qu'est la série télévisuelle. Et on n'est pas tout seul avec Marjorie pour en parler, on est très content d'avoir avec nous en studio aujourd'hui Chloé. Salut Chloé.
Salut.
Alors on l'a déjà dit, on t'a déjà présenté, hein, quand on va sur la chaîne YouTube de Génération Geek, t'es l'experte littérature, l'experte. Si on commence à manger les experts quand on parle de séries, on est mal barré. T'es notre experte littérature, pas à Miami mais à Alençon. Tu fais aussi du théâtre en amateur, donc je suppose que voilà, les séries, on est quand même sur quelque chose que tu maîtrises et que tu aimes.
Oui, c'est vrai que les séries, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, pas forcément toutes, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, quoi.
Alors Marjorie, les séries, qu'est-ce qu'une série, l'historique, les durées, les périodes de diffusion, les maisons de production, on va parler de tout ça ensemble tous les trois. Peut-être qu'on peut commencer par dire aujourd'hui ce que c'est qu'une série, ce qu'on entend par série. Alors il s'agit d'une série télévisuelle, même si on pourra le voir, il y a aussi ce qu'on appelle des web-séries, des séries sur internet. Alors une série télévisuelle, comment tu le définirais Marjorie? Et puis Chloé, t'hésites pas à compléter, hein, toi aussi.
Alors, une série, c'est pas compliqué, c'est une suite d'épisodes de plus ou moins longue durée, traitant d'une même histoire, mais diffusée sur plusieurs jours, et donc sur plusieurs mois aussi, qui se suivent. Voilà.
Sur une série, on parle d'épisodes de série, donc un épisode, il est duré... voilà, différentes, on le verra. Et puis il y a des saisons, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de tournage. En général, un épisode, c'est quasiment toujours un arc narratif court,
oui,
qui s'inscrit dans un arc narratif plus long, qui est la saison en général. La série elle-même pouvant, elle aussi, inclure un arc narratif encore plus long. On est à peu
voilà,
près OK sur la narration.
La différence. La différence étant entre une série et un film, c'est que la série, vous la retrouvez tous les ans, elle revient tous les ans normalement si elle est reconduite, et vous ne la verrez pas au cinéma par contre.
Alors les séries, quelle est leur origine justement? Est-ce qu'on est sur quelque chose de tout à fait récent, années 80-90? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui date du début de la télévision, ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'encore plus ancien que ça finalement?
Eh bien, ça va en surprendre plus d'un, mais en fait, les séries n'ont pas commencé dans les années 90.
Quoi, qu'est-ce ?
Et voilà.
Ça va en surprendre plus d'un, on essaie de travailler un petit peu le jeu d'acteur.
Non, en fait, c'est beaucoup plus vieux. Ça vient alors à la fois du serial, qui est un format inventé peu avant la Première Guerre mondiale, et qui est un film en fait découpé en plusieurs épisodes et projeté dans les salles de cinéma. Et ça vient aussi de la dramatique radiophonique. Un exemple tout bête, La Guerre des Mondes, avec des passages musicaux, des effets sonores, des pseudo-interviews. Et tout ça, c'était en 1938, les dramatiques radiophoniques. Donc ça vous laisse une petite marge de temps.
Alors la notion de série, pardon, oui, la notion de série, elle est aussi en littérature, je crois, justement.
C'est-à-dire que justement, j'allais venir là-dessus, c'est que la notion de série, enfin série, et en fait, dans les journaux, notamment dans la fin du 19e siècle, il y avait déjà des séries de nouvelles. Les romans étaient découpés effectivement et passés dans les journaux.
Les romans feuilletons célèbres qui sont devenus des
ouais,
romans.
Oui, notamment par exemple Alexandre Dumas, si on revient un peu sur un thème sur lequel on est déjà venu dans le thème de Génération Geek. Mais Alexandre Dumas, par exemple, Les Trois Mousquetaires, l'a découpé en feuilleton qui est passé dans les journaux, en fait, avant d'être un roman publié.
Donc on a trois origines historiques, hein, si je résume. Au cinéma, effectivement, des courts-métrages passés voilà, sous forme de format court dans des cinémas de manière récurrente, donc les séries dont tu parlais, Marjorie. Il y a aussi effectivement le format radiophonique. Alors ça se tombe bien, parce qu'en radio, voilà, on connaît bien, hein, ce format radiophonique des séries, donc qui est une façon de raconter des histoires, mais de manière un petit peu découpée, puis avec des médias, on va dire, différents. Alors médias au sens interview, extraits sonores, etc. On retrouve d'ailleurs un petit peu cette idée des séries radiophoniques avec les séries MP3 qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet.
Tout à fait, oui.
On pense au Donjon de Nullbuck notamment, mais pas que, il y a d'autres qui existent. Et puis, finalement, il y a un troisième mode pour les séries.
C'est le roman feuilleton.
C'est le roman feuilleton, voilà, mais qui est peut-être presque à l'origine, quoi.
Tout dépend du pays dans lequel on se trouve et de sa culture. Parce que si on veut revenir vraiment dans l'histoire, les séries télé, ça vient de trois pays, très précisément, des USA, de la France et du Royaume-Uni. Et chacun ont eu leur temporalité avec les séries télé. Par exemple, aux USA, la première série, elle a été diffusée en 1951 et c'était I Love Lucy. Et toutes les autres séries qui ont été faites voilà, dans les années 50, se sont inspirés de la culture américaine, c'est-à-dire que c'était des policiers ou des westerns. Les Mystères de l'Ouest, on en est là.
En Angleterre, la BBC, qui avait le côté radio, je suppose,
voilà.
A aussi été...
En Angleterre, la BBC s'est tout de suite inspirée de la télévision, a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire avec la télévision, avec notamment beaucoup de postes qui avaient été vendus à la fin des années 20. Après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc pas moyen d'émettre malheureusement. Et du coup, la première série a vraiment été diffusée en 1955 et c'était Dixon of Dog Green. Et ce qui est intéressant avec la BBC, c'est qu'elle a toujours pu faire ce qu'elle voulait en fait. Elle a une liberté de ton absolument incroyable qui n'existe pas sur les autres chaînes.
On peut dire pour l'anecdote que c'est encore la BBC qui a le record de la série la plus historiquement
avec
la plus
Doctor
vieille,
Who.
Avec une série très geek, Doctor Who justement, qui continue à être diffusée, qui continue à être produite même.
Oui.
Il y a toujours de nouveaux épisodes qui apparaissent.
Voilà.
Et puis alors en France, l'inspiration, est-ce que c'est justement Dumas et le roman feuilleton ou est-ce qu'il y a une autre inspiration?
En France, c'est les romans feuilletons, tout bonnement. Les premières séries à avoir été faites, c'est plutôt dans les années 60. Et là, on retrouve Vidocq, Jacoule Croquant, Belphégor, ces premières séries, toutes inspirées de romans feuilletons.
Ce qui est intéressant, c'est que plus de 50 ans après, du coup, on retrouve finalement encore sur ces trois pays-là différents des séries marquantes qui sont assez différentes. C'est-à-dire qu'on a, je parlais des experts en début d'émission en blaguant, mais oui, aux États-Unis, à la fois les séries western, mais surtout les séries policières, des experts, vous en avez partout, à Miami, à Los Angeles, à New York, ça fait je ne sais pas combien de temps que c'est diffusé, que c'est rediffusé et qu'il y a de nouvelles qui sont créées.
L'esprit
donc il y a vraiment cette chose-là voilà, sur les policiers.
Voilà.
En France, on n'est peut-être pas les rois de la série en France aujourd'hui, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sous série policière. Bon. Mais effectivement, il reste une inspiration quand même. Il y a des choses qui sont créées en France, quelle que soit la qualité, on en verra après. Et puis en Angleterre, il y a une vraie diversité des séries parfois un peu loufoques, parfois étranges, qui sont parfois des ovnis vraiment télévisuels.
Chaque pays, son style, j'ai envie de dire. En France, bon, on est sur un style très français. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, bon, c'est pas la peine. Pour ceux qui aiment bien, why not? Je te laisserai en parler, ça, Chloé, parce que moi et les productions françaises, on n'est pas très, très copains. Aux USA, quelque chose de très clinquant, de très bling-bling, de très policier. On va dans des enquêtes et tout ça. Il y en a à peu près partout. Et la BBC a le monopole, vraiment, des histoires originales, des fictions. Alors... ils aiment bien aussi s'inspirer des grands classiques de la littérature. Hein. Sherlock Holmes, Conan Doyle, Dumas. Dumas, ils aiment bien aussi. Hein. Ils nous aiment bien en France. Il n'y a pas de problème. Et chacun son style, en fait.
Alors, la durée, justement, sur les séries, on est habitué aussi en France à des formats très courts. Alors, c'est un gars et une fille qui ont commencé avec ce format très, très court. Mais derrière, il y a eu plein d'autres séries. Caméra Café, Kaamelott, voilà, Scène de ménage aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup d'autres qui existent.
Après, moi, j'avais vu justement sur Un gars et une fille, parce que c'est le premier en France qui a vraiment cartonné, que l'origine d'Un gars et une fille n'était pas française en fait du tout à la base. Je ne sais plus quel pays, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne sais plus de quel pays ça vient. Et après, il y a eu effectivement dans tous les pays ont eu leur Un gars et une fille. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup ces séries-là et ces formats de séries-là de 5 minutes. Et notamment l'univers de Kaamelott, etc. On en parlera aussi peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais j'aime ce côté effectivement très court et du coup qui se laisse regarder facilement entre deux choses.
Je suis un peu comme Marjorie, j'ai pas un grand amour de la télévision française, du cinéma français et même
mais
des séries françaises.
Mais en matière de sitcom,
sur les séries,
on est imbattable.
Sur les formats courts, en tout cas, les formats très courts, on arrive plutôt à avoir une densité, une qualité qui est intéressante. Après, une série qui marche extrêmement bien en France, c'est Plus belle la vie, qui est quand même une série quotidienne, qui dure depuis très longtemps, qui réunit beaucoup de monde devant la télévision. Alors voilà, moi je ne suis pas fan de cette série-là, mais c'est une indéniable réussite à ce
les
niveau-là.
Les Français aiment bien les histoires à l'eau de rose.
Après, j'ai lu aussi des articles, on parlera tout à l'heure des scénaristes, hein, qui se plaignent effectivement de la contrainte de production en France. Elle n'est pas la même, cette contrainte à l'étranger. Et du coup, c'est peut-être aussi pourquoi on n'a pas les histoires à la hauteur de ce qu'on pourrait être capable de produire. Alors, il y a le format 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme format? Un format un peu plus long que 5 minutes, format 20 minutes.
Il y a les formats 20 minutes qui sont les sitcoms longues. On peut citer par exemple Friends, qui faisait 20 minutes.
On est plutôt sur l'humoristique, 20 minutes en général,
c'est
l'humoristique, ou sur du
oui.
soap-opéra.
Oui, plutôt. Alors, c'est pas du tout quelque chose... on va pas être sur de la série policière à 20 minutes, parce que de toute façon, on n'aurait pas le temps, scénaristiquement, de résoudre une enquête
Gadget, y arrive, hein.
en 20 minutes. Ah oui, alors l'inspecteur Gadget, on va pas revenir là-dessus, c'est pas tellement le sujet,
là,
s'il te plaît.
On est sur du dessin animé, voilà. Bah pareil.
On va pas commencer.
20 minutes, c'est plutôt humoristique, ou alors effectivement, des histoires de vie. Voilà, donc ce qu'on appelle des soaps.
Mais on est vraiment sur effectivement de l'humoristique, puisque les dernières qui sont sorties, dont Friends faisait partie des toutes premières. Mais derrière, il y a eu Oh, I Met Your Mother, il y a eu The Big Bang Theory, qui est la série geek par excellence.
Oui.
Malcolm. Aussi,
Mais on était tout le temps sur effectivement, enfin très très facilement sur de l'humoristique.
Après, seul petit point d'exclamation à ça, c'est que Kaamelott, qui à la base était une série de 5 minutes, s'est retrouvée à être une série de 20 minutes. Et là, pour le coup, sur la dernière saison, on va m'excuser, mais ce n'est pas totalement toujours humoristique non plus.
Alors, hein, c'est justement ce qui est intéressant. C'est-à-dire que
nuancé.
Le format de 5 minutes a permis effectivement d'être sur de l'humoristique. Quand ils sont passés en format... Alors, c'est un format de 20 ou de 40 la dernière saison
De 20 minutes la saison 5.
Sur 40, en fait.
La saison 5 de 20 minutes. Et la saison 6, c'est plutôt des épisodes
minutes.
De 50 minutes.
Voilà. Mais du coup, dès qu'il y a une partie un peu dramatique... Il faut du temps pour le mettre en place. Il faut poser. Et donc, sur un rythme dense, c'est compliqué. Et donc, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas l'allongement de la série qui a induit finalement quelque chose de moins humoristique et de plus dramatique, mais que c'est justement parce que le propos devait être dramatique qu'il y a eu besoin de plus de temps pour le raconter.
C'est ça. Sur Kaamelott, ça a été vraiment ça, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur des pointes humoristiques qui duraient 5 minutes, ça fonctionnait très très bien. À partir du moment où ils ont voulu donner un petit peu de corps à la série, ce qui est très bien, parce que je trouve qu'à un moment donné, sinon on allait tourner en rond hein, dans Kaamelott, c'était sûr. Mais forcément, il y a besoin de beaucoup plus de temps et on va beaucoup plus en profondeur des personnages, donc forcément, il y a besoin de temps.
Alors le format au-dessus, c'est les formats 40 et 60
alors,
minutes.
Les formats 40
on
minutes.
S'arrête à 60 minutes parce qu'au-delà, quand on passe sur l'heure et quart...
C'est un feuilleton.
L'heure et quart, on est sur autre chose, on est sur un feuilleton, mais on est sur un film en fait. C'est-à-dire qu'on est... L'heure et quart, c'est le premier format souvent adapté plutôt pour la comédie. Et puis après, quand on monte une heure et demie, 1h45, 2h, on est sur des formats qui vont être des formats de films. Donc,
des téléfilms en plusieurs parties.
Téléfilms, mais voilà, on est sur autre chose.
On n'est plus sur
60
une série,
minutes,
une série
c'est télé. Le max pour une série télé. Alors quel est l'intérêt de ces deux formats? Est-ce que c'est un intérêt qui est lié encore une fois à l'histoire et à la narration de ce qu'on veut raconter, ou est-ce que ce format-là est finalement lié à la chaîne qu'il diffuse et donc aux coupures pub, puisque il faut rappeler quand même que les premières séries et les romans feuilletons, mais aussi les séries radio autres, ont quand même un objectif au départ, c'est de vendre et de vendre la publicité qui est inclue avant, après, à l'intérieur.
Alors sur les séries dont les épisodes font 40 minutes, déjà ce sont toutes et sans exception des séries longues. Alors, on reviendra aussi dessus. Il y a les séries courtes et les séries longues. Les séries courtes ont tendance à faire une heure chaque épisode. Et les séries longues ont tendance à faire 40 minutes. 40
Alors,
minutes,
on peut
c'est...
le dire maintenant, une série longue, c'est une série qui va faire entre
22,
20 et 25 épisodes,
entre
c'est ça
22 et 24 épisodes précisément.
22-24. Et une série courte, c'est 10-13 épisodes à peu
10-13,
près
10-13, ouais. D'accord. Mais ça ne peut pas aller au-dessus, sinon on passe sur une série longue et du coup une heure par épisode, ça fait beaucoup. Sinon, c'est tout simplement chacun sa grille de programmation. Comme sur RCF, vous avez des émissions de 25 minutes, des émissions de 15 minutes et des petites chroniques de 5 minutes. Et bien, c'est pareil pour les chaînes de télévision. Ils ont des créneaux horaires et il faut rentrer dedans. Et les chaînes de production qui produisent les séries longues ne font que ça déjà parce que tous leurs créneaux sont codifiés pour que ça fasse 40 minutes
c'est,
en
c'est
plus de la
C'est une vraie question de grille de programmation et c'est parfois un souci quand il y a une exportation à l'étranger, c'est qu'il y a des formats de séries En France, typiquement, le créneau phare, c'est le créneau 20h50, 22h30. Et donc, c'est un créneau qui fait plus ou moins 1h30, 1h40 avec les coupures pub. Donc ça, c'est un format film. Donc, quand on veut passer de la série en France, dans ce créneau-là, il faut passer deux épisodes. Donc, où ça déborde, où ça va avant, après. Parfois, c'est trois, mais ça fait un petit peu tard, etc.
Alors, ça déborde jamais.
Il y a aussi la question qui, parfois, quand on veut passer une série de 60 minutes dans un format de 40 ou d'un peu moins, il y a eu des coupures. Il y a des épisodes comme ça de séries longues qui ont eu des coupures à l'intérieur et ça n'a pas beaucoup plu aux fans quand il y avait ces
changements-là. Non, alors, le principe est clair. Si vous passez sur une chaîne qui a des créneaux de programmation plus courts que l'épisode proposé, la chaîne de programmation, elle ne va pas s'embêter. Elle va mettre une pub au milieu, une pub, je vais dire deux pubs au milieu. Et puis comme ça, ça rentre. Ça fait 40 minutes avec les pubs, en fait. Le créneau est d'une heure. Mais si vous rajoutez les pubs, vous avez... maintenant, à l'heure actuelle, vous avez plus de 10 minutes de pub. Avec les annonces au début, les annonces à la fin, tout ça fait que l'épisode doit durer 40 minutes. Donc on fait des coupes dedans.
Alors on va faire une coupure nous aussi, une pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer à parler effectivement des séries, de tout ce qu'il y a autour. On parlera des services aussi d'abonnement, notamment Netflix. Mais il n'y a pas que Netflix pour parler effectivement de comment on peut regarder des séries aujourd'hui de manière légale et quand on est un gros consommateur de séries. À tout de suite. Ambiance presque western pour vous parler de séries, en parlant de séries sur les westerns. Je sais que c'est la prochaine émission, mais tant pis, je me lâche. Regardez Westworld, vous allez voir, c'est très très sympa et la musique m'y fait beaucoup penser. Alors, on a parlé de beaucoup de choses sur les séries, on a parlé du format, on a parlé de leur histoire. On va citer très rapidement quelques grandes maisons de production. Alors, on ne parlera pas des maisons de production françaises, mais plutôt des maisons de production étrangères. Chloé, Marjorie, citer quelques exemples de maisons de production et puis du coup, effectivement, quelques séries qui s'y rattachent.
Eh bien, on a tout d'abord la plus emblématique de toutes, HBO, qui produit...
HBO.
HBO, voilà. Qui produit la très célèbre Game of Thrones et du coup Westworld, comme on vient de vous le dire, mais aussi True Blood ou encore, pour ceux qui connaissent, Sex and the City. Comme vous le voyez, c'est un peu des séries pour adultes.
Alors Game of Thrones, qui reste encore la série la plus regardée, la plus piratée de tous les temps, et à chaque nouvelle saison qui sort, c'est un record dont ils ne sont pas si malheureux que ça finalement.
HBO adore les pirates.
Ils ont même commencé à penser à des systèmes, moi j'ai vu ça, non pas sur HBO, mais pour Viking, qui est diffusé sur Historica, si je ne dis pas de bêtises,
oui.
Où ils incluent carrément la publicité dans l'épisode. Ce qui fait que même les gens qui piratent l'épisode peuvent voir quand même la publicité. Et donc, pour eux, ça leur apporte quand même de l'argent. Chloé,
fait.
D'autres maisons de production un peu connues
Effectivement, il y a la BBC qu'on connaît effectivement très bien, qui a pu notamment faire une superbe série que je conseille à tous, c'est The Mousquetaires, qui est une très très bonne série. Et puis, Doctor Who, bien sûr, Sherlock. Et puis, la série Merlin. Alors, qui se laisse regarder, qui est pas mal.
Elle est géniale cette série
qui se laisse regarder et qui ça permet de voir Merlin en jeune premier,
c'est drôle quand même.
CW aussi, donc une autre boîte de production avec des séries plus longues et assez orientée geek et côté fantastique, alors avec Arrow qui est un super héros, The Flash, Supernatural, la série préférée de Marjorie, Vampire Diaries, Véronica Mars, Smallville, 7 à la maison qui est une vieille série pour le coup, peut-être que certains se rappelleront avec émotion de cette série 7 à la maison.
Plutôt production de séries pour tous âges.
Voilà. Donc il y a Showtime aussi qui est plutôt pareil pour des plus vieux avec Dexter.
C'était la première avant que
etc.
HBO ne, ne décide de produire Game of Thrones. Et du coup, Showtime s'est fait décapiter au sens propre du terme. Et puis, Dexter s'était arrêté. Alors,
faut quand même pas oublier qu'ils ont fait les Borgia, ils ont fait les Tudors, qui restent quand même des séries historiques
extrêmement
bonnes et très, très bien faites.
Et puis, le dernier arrivé, mais non des moindres, c'est Netflix. Alors, Netflix, donc pour vous citer quelques séries, hein, parmi les plus connues, alors, il y a des séries de super-héros comme Jessica Jones ou Daredevil, mais voilà, des séries qui sont très connues, c'est House of Cards, où effectivement on va suivre les pas d'un député, je crois, américain dans sa course à une élection plus grande voilà, à Washington. Et puis Orange is the New Black, avec mon accent toujours aussi impressionnant, où là on suit le quotidien de femmes qui sont prisonnières aux États-Unis. Et donc c'est assez intéressant aussi. Alors voilà, c'est pas les seules séries produites par Netflix, mais à chaque fois c'est des gros moyens sur la production de séries, parce que c'est vraiment ce qui les fait vivre, et c'est souvent des très belles réussites. Alors Netflix, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme Canal+, c'est-à-dire qu'il faut payer un abonnement, et en payant un abonnement vous accédez à un contenu. Là, c'est un contenu où il y a effectivement des films, où il y a effectivement des documentaires, où il y a des spectacles, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de séries. Et effectivement, ils sont très réputés pour ça, parce que classiquement, quand vous vous abonnez à une chaîne ou quand vous regardez une chaîne, vous voyez la série une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction de la récurrence, plutôt une fois par semaine en général. Là, sur Netflix, eh bien, vous vous abonnez à Netflix et vous pouvez regarder autant de séries que vous voulez. Et quand Netflix produit Daredevil, par exemple, il va mettre en téléchargement ou en streaming directement, donc on va pouvoir le regarder directement, l'ensemble de la saison qui a été produite. Et donc pour les amateurs de séries, c'est quelque chose qui marche très très fort, parce que finalement il y a une nouvelle façon de consommer des séries, qui n'est pas de les consommer un épisode par un épisode chaque semaine, mais de les consommer, comme on dit, en binge watching, donc regarder de jusqu'à ne plus pouvoir regarder, où les gens vont regarder en une semaine 4, 5, 6, 10 épisodes d'une même série, et qui vont pouvoir regarder d'affilée en fait tous ces épisodes, un peu comme on lirait un livre. Et on lirait chapitre par chapitre. Quand on est fatigué, on va se coucher. Et puis le lendemain, on reprend au chapitre où on s'est arrêté. Mais on ne va pas lire un livre, un chapitre le mardi, prendre un autre livre, lire un autre chapitre le mercredi, prendre un troisième livre, lire un autre chapitre le jeudi. Mais bien, on va lire son livre jusqu'au bout. Et regarder une série aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu ça. C'est des chapitres d'une même histoire. Et on a envie de connaître cette histoire du début à la fin. Et donc, on va regarder tous les chapitres quand on peut jusqu'au bout. Voilà pour la petite métaphore filée que je vous offre.
Sachant que sur certaines séries, il y a des moments où on se dit que le livre ne va jamais se terminer, parce qu'il y a des séries qui durent depuis tellement longtemps et qui sont tellement longues.
Il y en a qu'on peut pas arrêter. Il y en a qu'on ne peut pas arrêter. Et pourtant, même les producteurs aimeraient les arrêter, mais regardez Supernatural, ils peuvent pas.
Mais en livre, c'est pareil. Moi, j'ai lu quasiment tout l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je crois que c'est 13 ou 17 tomes, je ne sais plus, de bouquins. Il y a eu un arrêt, une série dérivée littéraire, hein, et là, ils reprennent l'Assassin Royal à nouveau. Donc oui, l'histoire n'est pas finie, alors qu'elle pourrait peut-être... Après, voilà, il y a eu des phases où ça aurait pu s'arrêter.
En même temps, si on prend l'exemple de Game of Thrones, je pense que c'est pareil au niveau des bouquins. Je ne sais plus où on en est, combien il y en a, mais il y en a un paquet aussi.
Hein. Oui, il y en a beaucoup aussi. Alors après, il y a une fin de prévue normalement à Game of Thrones, en tout cas par son auteur. Après, on verra si les scénaristes... Oui, les scénaristes l'ont dit aussi qu'ils ne voulaient pas aller au-delà de la saison 7 et demi, je crois.
Oui, alors il faudrait déjà que George R. R. Martin arrive à le finir, son bouquin, parce que même lui, il n'a pas terminé de l'écrire. Alors
justement, on parle des auteurs, on a parlé un petit peu des maisons de production. Quels sont les acteurs, justement, de ce monde des séries? On a la maison de production, donc c'est la personne qui va financer la série.
Généralement la chaîne.
C'est souvent la chaîne qui va aussi diffuser la série sur sa propre chaîne une première fois, puis après va la vendre à l'export dans d'autres pays étrangers. Qui sont les acteurs principaux dans, justement, l'écriture et la production d'une série?
Il y a le producteur exécutif, déjà. Ensuite, il y a le réalisateur. Alors, c'est souvent celui qui réalise le premier épisode de la série entière. Alors, il ne réalisera pas les autres, mais ça ne fait rien. Il réalise le premier, c'est lui qui lance la machine, en fait. Donc, c'est le plus important. Par exemple, pour House of Cards, le premier épisode, les deux premiers même, sont réalisés par David Fincher, qui est un réalisateur de films mondialement connu.
Et du coup, ça va donner une patte visuelle à la série, ça va donner des codes graphiques
ça
à la série, un
élan
pour le... Voilà. Mais après, le réalisateur suivant va s'inspirer des codes du premier pilote pour continuer.
Tout à fait. Et sinon, l'acteur principal, alors sauf en France, mais aux États-Unis et en Angleterre en tout cas, Le plus important, c'est le scénariste. On peut rien faire sans lui, de toute façon. S'il écrit pas, il y a rien qui se passe. Même les acteurs, ils sont au chômage. Le scénariste est vraiment le roi.
Le scénariste aux États-Unis, en Angleterre, a une place extrêmement importante. Il y a eu une dizaine d'années maintenant, il y a eu une grande grève des scénaristes américains. Je crois que toutes les séries ont été en stand-by pendant 2 à 3 mois. C'était quelque chose de très très long.
Et d'ailleurs, cette année-là, toutes les séries longues, d'ailleurs à cette époque-là, il n'y avait pas encore de séries trop courtes, toutes les séries se sont vues amputées d'une partie de leur épisode. C'est pour ça que vous retrouvez des saisons entières qui ne comportent que 13 ou 14 épisodes. Il en manque. Mais c'est normal.
Et c'est là où on revient sur le cas de la France, parce que les scénaristes en France n'ont pas ce pouvoir-là. Le pouvoir est souvent très fort du côté du producteur, il peut l'être aussi du côté de la réalisation, alors plus particulièrement au niveau du cinéma qu'au niveau des séries, mais quand même. Mais le scénariste a un pouvoir qui est relativement faible en France. Moi, j'ai lu un article, alors je ne sais plus dans quel magazine, mais qui était un magazine de cinéma tout à fait sérieux, où des scénaristes français s'exprimaient, disaient « Mais on écrit plein de choses très bien en France, et même plein de choses très bien qui existent sur le web. Il y a une vraie façon d'écrire française qui est pertinente et intéressante. Simplement, les producteurs sont encore en train de nous dire « Arrêtez vos séries un peu fantastiques, arrêtez vos idées un petit peu morbides. » Écrivait pour la fameuse ménagère de moins de 40 ans. Et les scénaristes disaient, mais donc c'est ce qu'on fait. Du coup, on produit du plus bel la vie à plus savoir qu'en faire, qui peut avoir un intérêt, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus. Sauf que la ménagère de moins de 40 ans, même si elle regarde des séries françaises, elle regarde aussi Game of Thrones. Et donc, elle a aussi envie d'une histoire un peu trépidante, un peu fantastique, proche de la réalité, dure parfois. Voilà. Donc, on a un vrai problème de la place, je pense, des scénaristes en France.
Sur l'exemple qu'on peut prendre aussi, je reprends l'exemple de Kaamelott, parce que c'est aussi l'exemple type. Là, on sait qu'un film va enfin sortir pour clôturer un peu les choses, mais ça a été très long. Parce qu'effectivement, la famille Astier, et notamment Alexandre Astier, s'est aussi un peu battue contre ça pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Et c'était pas si simple. Pourtant, c'était son bébé à lui. Et il était un petit peu empêché pour plein de choses, pour faire ce qu'il voulait.
Kaamelott, c'est une belle histoire à l'origine. Parce que quand même, Alexandre Astier a réalisé, écrit, a joué le rôle principal de cette mini-série, qui était une vraie réussite, qui était très ambitieuse pour M6.
Il a composé la musique aussi.
Enfin, quelque chose de vraiment très, très qualitatif. Néanmoins, bien sûr, le producteur, c'est celui qui finance, donc c'est celui qui décide. Et c'est lui qui était propriétaire, effectivement, de la marque Kaamelott. Et donc, quand la série, donc M6, pour ne pas les citer, s'est arrêtée, et puis il n'y avait pas que M6, une autre boîte de production avec, quand la série s'est arrêtée à la télé et qu'Alexandre Astier a voulu faire son film, il a dû batailler, je crois, près de 10 ans juridiquement pour récupérer, peut-être un petit peu moins, pour récupérer les droits d'exploitation d'une œuvre qu'il a créée. Donc, c'est un petit peu.
C'est moins que ça, mais effectivement, on s'est dit qu'on n'aurait pas forcément de fin sur cette série-là. On a vraiment pensé que la série s'arrêterait. Il a enfin gagné, enfin, eu gain de cause là, et on sait enfin qu'il va y avoir une suite, mais c'était pas gagné du tout.
Typiquement, Kaamelott, c'est une série à petit budget dans le sens où, par rapport à une série américaine, on est quand même sur des budgets qui sont relativement ridicules. Mmh. On a des costumes d'une grande qualité, on a un scénario qui a une vraie originalité, des
on
acteurs qui se donnent
voilà,
et il y a un vrai savoir-faire. Donc on peut pas dire qu'en France, on ne sait pas faire. Quand on laisse les créatifs faire les choses, on a des bons résultats sur Internet. On en a déjà parlé ici, mais le Visiteur du Futur, mais il n'y a pas que, avec, j'ai perdu le nom de, Monsieur Descraques, François Descraques, fait plein de projets qui sont extrêmement intéressants, extrêmement ambitieux, avec des petits budgets. Sur le Visiteur du Futur, typiquement, la saison 4, qui était produite en partie par France 4, la saison complète coûtait le budget d'un seul épisode de Plus belle la vie. Et en termes d'imagination et d'invention, on est quand même bien au-delà, pardon pour eux, il ne s'agit pas de les critiquer plus que ça, mais on est quand même quelque chose de bien plus innovant, plus belle la vie.
C'est donc, l'épisode final qui est passé au cinéma.
Oui, et donc il faut laisser le champ libre aux créatifs pour qu'ils puissent exprimer leurs idées. Ça permet vraiment d'avoir des choses de qualité. Après, si on peut donner du budget, c'est encore mieux.
Et ça, outre-Manche, ils l'ont parfaitement compris, contrairement à nous.
C'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que c'est aussi piraté. Alors, les services d'abonnement, si vous voulez en voir, il y a Netflix, il n'y a pas que Netflix, sur vos différentes box, que ce soit Orange, Bouygues, SFR ou autre. Il existe des services d'abonnement comme ça, c'est ce qu'on appelle la SVOD, service de vidéo à la demande. Et donc, vous pouvez vous payer de l'ordre de 7 à 12 euros par mois pour une fourchette large. Et vous pouvez regarder autant de films, autant de séries que disponibles dans votre catalogue. Voilà, Canal Play Infinity aussi fait ça. Et on peut regarder beaucoup de séries. Donc, de quoi se satisfaire légalement sans aller télécharger de manière illégale.
En plus, Canal Plus fait quand même pas mal ses propres séries aussi. Hein.
Alors, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne regarde pas beaucoup de séries Canal Plus, nous, à la maison. Mais ce n'est pas que ça. Mais effectivement, un des producteurs de séries en France de qualité, c'est bien Canal Plus, qui produit beaucoup de séries françaises de qualité. Alors après, vous connaissez les goûts de Marjorie maintenant pour tout ce qui est cinéma français.
Ah, j'ai beaucoup aimé Maison Close.
Maison Close est une très bonne série.
Il semblerait que Versailles soit une très bonne série aussi.
Elle est pas mal. Bon voilà, on vous en savait plus sur les séries. On se retrouve la semaine prochaine. On va pouvoir vous donner quelques conseils de super séries à visionner, ce qui arrive en 2017 et puis nos petits coups de cœur. Bonne semaine. Salut à toutes les deux.
Salut à tous.
Salut.
À la semaine prochaine.